Édito du jeudi 22 novembre 2018. Au sommaire, l'envirotique, coup de projecteur sur une tendance, celle de l'environnement intelligent, des bâtisses qui répondent aux besoins des usagers, mais aussi aux enjeux de développement durable. Alors comment le Québec se situe-t-il dans cette course au système qui conjugue automatisation, innovation et respect de l'environnement? C'est ce que nous dira Émilie Aubry dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse C'est Science de notre économiste Audrey Azoulay sur l'usine 4.0 et l'internet industriel. Et enfin, notre invité de la semaine, c'est Pascal Monette, le PDG de l'ADRIC, vient nous parler des 40 ans de cette institution majeure dans l'innovation québécoise. 40 ans célébrés ce jeudi en grande pompe lors du grand gala annuel qui se tient à Montréal. Et c'est tout. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 22 novembre 2018, l'envirotique. Alors rien de coquin là-dedans, on vous rassure. Salut Émilie.
Bonjour Philippe.
Alors l'envirotique, c'est la contraction de deux mots, environnement et immotique. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Émilie, éclaire-nous s'il te plaît.
En fait, défoncer les limites de l'automatisation, c'est possible grâce à des techniques informatiques de haut niveau. Le CIMEC, c'est-à-dire le Centre d'innovation en microélectronique du Québec, a développé au début des années 2000 une marque de commerce ayant pour nom celui d'envirotique. C'est un volet qui se veut encore plus poussé que la domotique. Cette idée repose sur le fait de contrôler des environnements par des structures intelligentes qui sont électroniquement connectées. Par le biais de différents dispositifs, on fait tout d'abord l'analyse et le traitement de données comme la mesure de la pression, température et humidité d'un bâtiment, la prise de connaissance des algorithmes pour ainsi mieux migrer vers des stratégies tirées de l'intelligence artificielle.
Donc, mieux maîtriser notre environnement, ça semble signifier, à t'entendre Émilie, repenser totalement la répartition des tâches entre la machine et l'humain, mais pas aux dépens de l'humain, c'est bien ça?
Non, c'est très important. Bien qu'on veuille toujours faire des avancées qui fassent une différence sur notre qualité de vie, le respect humain fait partie intégrante des enjeux étudiés et pris en compte. Monsieur Michel Chabot, directeur général du CIMEC, nous explique en quoi ces innovations changeront le côté pratique de certains champs d'activité au cours des prochaines années.
Ce sera au niveau, par exemple, des serres pour mieux contrôler ce que l'on mange, ce que l'on fait pousser, que ce soit nos maisons être capables de mieux contrôler les économie d'énergie, de même dans les hôpitaux, tout ce que l'on peut faire peut-être éventuellement pour pouvoir aider le personnel à mieux aider les malades, à mieux supporter, que ce soit les infirmières, les aidants naturels. Ce qu'on cherche à développer à moyen terme, c'est de permettre aux gens en perte d'autonomie de rester à demeure plus longtemps et faciliter aussi l'ensemble des soins entourant ces personnes-là, mais tout en respectant aussi la dignité et la vie privée.
Le gouvernement du Québec aura la possibilité d'intégrer l'envirotique aux maisons des aînés qu'il a l'intention d'implanter. Malgré tout, le but est d'exporter nos avancées à l'étranger. À court terme, des partenariats internationaux sont prévus pour continuer de mettre au point les différentes technologies.
Alors au Québec, on n'a pas de problème majeur avec l'approvisionnement et les dépenses en énergie. En revanche, dans certains pays, il faut déployer des stratégies très innovantes, très inventives pour économiser la consommation d'énergie. Donc, on imagine que ces approches, elles peuvent ou ont pu inspirer les promoteurs de l'environtique, non?
C'est vrai, M. Chabot revenait tout juste d'une mission économique en Europe pour entre autres y prendre le pouls des techniques utilisées dans ce domaine, le but étant de se documenter sur le fonctionnement de villes intelligentes. Malgré tout, il reste clair sur le fait que nous sommes bien positionnés en la matière, on l'écoute.
Il n'y a pas un pays qui est en avance sur d'autres. Beaucoup de choses qu'on a vues intéressantes qui se passent, mettons, côté de l'Espagne, côté d'Israël, côté de la France, mais le Québec et le Canada est dans la course autant que tout le monde. Là, puis on peut être fier de ce que l'on développe, de ce que l'on met de l'avant.
Des étudiants et chercheurs participent déjà activement au développement de l'envirotique puisque ce volet s'ajoute complémentairement à plusieurs champs d'expertise déjà en place. Comme par exemple à l'Université de Sherbrooke, le baccalauréat en génie du bâtiment accorde un volet à l'enseignement de l'envirotique dans le cadre de certains cours. C'est ce que nous a dit le professeur Sébastien Poncet, titulaire de la chaire de recherche du CRSNG en efficacité énergétique industrielle de l'Université de Sherbrooke, à savoir si des débouchés et champs d'études encore plus pointus vers l'envirotique pourrait voir le jour. Voici ce qu'il avait à nous répondre.
D'un point de vue enseignement, là, ce serait comme une spécialisation en fin de cursus pour des ingénieurs, là, que ce soit en génie du bâtiment, en génie mécanique, etc. Mais oui, il y a une forte demande, là. On le sent, là, que ce soit des PME ou des plus grands groupes là, au Québec, de gens qui soient capables de bien connaître à la fois les composants ou les systèmes, et puis après de faire leur intégration au niveau d'un ensemble de procédés ou d'un groupement de bâtiments. Donc il y a une forte demande actuelle, oui.
Ne rien laisser au hasard et prévoir l'imprévisible, c'est ce à quoi travaillera l'envirotique au cours des prochaines années. Un secteur qui a déjà tout pour nous révéler de très grandes surprises.
Ah ben merci, Émilie, c'est très encourageant.
C'est le tour de
l'étage
de la semaine.
Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Voilà un thème qui va beaucoup plaire à notre invité de deuxième partie d'émission, donc Pascal Monette, l'Industrie 4.0. Investissement Québec mène actuellement une tournée industrielle en ce sens à travers 17 régions du Québec. Il s'agit notamment d'encourager le milieu de la fabrication à explorer toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies.
Oui, le monde manufacturier a toujours évolué au fil des nouvelles technologies de la production. Il y a quelques années, les vocables qui ressortaient beaucoup étaient l'automatisation, la robotisation. Il reste bien sûr au goût du jour, mais le nouveau boom dans le manufacturier se concentre largement sur ce qu'on appelle l'Internet industriel des objets, qui permet de connecter l'ensemble de la chaîne de production, mais plus largement l'ensemble de la chaîne logistique pour une fabrication toujours plus intelligente. Alors, l'objectif ultime reste bien sûr celui d'une efficience augmentée de la production pour gagner en compétitivité. Mais avec l'Internet industriel des objets, les promesses deviennent gigantesques parce que, au-delà de la collection de données permise par des équipements industriels complètement habillés de capteurs et qui permettent de mesurer des conditions environnantes à la production extrêmement précises, eh bien, l'Internet industriel des objets nous mène à ce qu'on appelle des innovations connectivité. Elles sont collées à l'intelligence artificielle, la chaîne de production devient apprenante et voilà enfin une manière d'améliorer les processus, d'augmenter la productivité de manière automatique, de manière continue. Alors les manufacturiers savent l'apprécier, notamment pour la maintenance prédictive. Les économies à ce chapitre sont d'ailleurs énormes pour converger vers le zéro déchet ou pour globalement augmenter la qualité des produits. Alors après l'industrie 4.0, l'usine 4.0, on parle de la chaîne de valeur 4.0, une chaîne de valeur qui dépasse l'usine, qui dépasse même la fabrication en tant que telle, puisque les manufacturiers s'inscrivent de plus en plus dans des super systèmes industriels, dans un tout hyper connecté, un tout décentralisé. Des fournisseurs jusqu'aux clients, effaçant définitivement la frontière entre le manufacturier et le secteur des services. Avec l'Internet industriel, le schéma industriel ne sera plus jamais le même.
Alors Audrey, est-ce que le Québec a emboîté le pas de cette révolution ?
Alors très certainement, mais la question est à quelle vitesse ? Et c'est probablement la préoccupation d'Investissement Québec. Il s'agit de mobiliser donc les manufacturiers pour qu'ils accélèrent leurs investissements et ajustent leur modèle d'affaires conformément à une intégration extrêmement poussée des chaînes de valeur. La firme Accenture a publié en 2015 une étude qui proposait une mesure de la capacité d'une économie à absorber ces nouvelles technologies ou comment l'Internet industriel des objets se diffuse dans l'économie. Et dans un classement qui comparait 20 différentes économies, les États-Unis prenaient la première place devant la Suisse, la Finlande, la Suède et la Norvège. Le Canada arrive en 13e place. Alors l'étude proposait également des facteurs favorables pour améliorer les scores et on va les lister très brièvement. D'abord les fondations institutionnelles de l'innovation, bien sûr, notamment la justesse des règlements et des stratégies industrielles, l'accès au réseau 5G, très important. Il faut ajouter le soutien à la recherche et développement, l'établissement de normes en Internet des objets, la formation, évidemment, un grand chapitre. On n'oubliera pas la question de la sécurité des données, cruciale, le cadre des GRAP industriels ou encore un dispositif favorable à l'innovation ouverte. Autant de facteurs dont on a tout intérêt à vérifier la force au Québec, car l'Internet industriel des objets n'intéresse pas seulement le manufacturier. Il a sa place dans de très nombreux domaines, comme la santé, ou pour répondre aux multiples besoins des villes intelligentes.
Ah bah, un écho à ce qu'évoquait Émilie il y a quelques instants dans son reportage sur l'envirotique. On y est. Une révolution, hasta siempre. Merci Audrey.
C'est donc, c'est science.
Salut Émilie.
Salut Philippe.
Chaque semaine, tu renifles les offres d'emploi qui sentent bon la recherche, l'innovation et le bon teint de Provence. En quête non pas de la truffe noire, mais d'une autre pépite, le job parfait. C'est le billet d'Émilie, la tête chercheuse.
Je cherche. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Alors cette semaine, je recherchais pour vous des offres dans le domaine de l'innovation. Et pour me coller aux chroniques d'Émilie Aubry sur l'envirotique et sur la chronique d'Audrey à l'instant, j'ai mis le doigt sur une offre d'emploi qui concerne spécifiquement les objets connectés.
Ah, ouais. J'adore.
Donc, l'entreprise service conseil IntelliSoft recherche un ou une développeur Java senior spécialisé en objets connectés. Donc, le titulaire du poste se concentrera sur le développement de services qui permettront le traitement de données provenant d'une multitude de capteurs. Intriguant, n'est-ce pas ? On crée des nouveaux types d'emplois chaque jour, on dirait. Hein. Donc, avec cette offre et la chronique d'Émilie d'Audrey, je me demande juste jusqu'où va la folie des objets connectés.
Ah.
Alors, je vous ai préparé mon top 3 des objets les plus absurdes, les objets connectés les plus absurdes. Est-ce que vous êtes prêts ?
Certainement.
Alors, en troisième position, j'ai trouvé un objet connecté spécialement pour toi, Émilie, puisque tu es experte de la météo.
On
n'en parle pas assez au micro. Et donc, c'est un parapluie intelligent.
Wow.
Oui. Alors, au départ, je trouvais l'idée complètement farfelue, mais je me suis souvenue du nombre de parapluies que j'ai perdus dans ma vie. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas si fou.
Pourquoi il se retrouve tout seul, en fait,
exactement,
le parapluie?
Exactement. Oui, il marche.
D'accord. C'est très intelligent.
Non. La compagnie s'appelle Umbrella et vous propose un parapluie qui vous envoie sa dernière localisation sur votre téléphone et vous dit aussi la météo au passage.
Non, mais là, ça, je veux garder mon travail quand même.
Ah, ça y est. Hein, ouais. ça remplacerait évidemment les humains qui sont derrière le pupitre.
Il y en a pas question.
Je trouve qu'il manque un petit côté humain. Moi, j'aurais aimé que la technologie aille un peu plus loin et qu'on fasse parler le parapluie. Et donc, quand il pleut, il dirait à son ou sa propriétaire « Vas-y, prends-moi maintenant ». Et quand il pleut pas, il dirait simplement « Pas maintenant, j'ai mal à la tête ».
Un peu chaud quand même. Un peu chaud le parapluie. Hein.
Je serais prête à faire la voix du parapluie sans problème.
Oh.
On va vous laisser les deux, Émilie. Hein. Alors, on enchaîne.
En deuxième position, attention, le toaster intelligent. Et c'est ça que j'aime avec la technologie, c'est qu'on peut se permettre de mettre le mot intelligent après n'importe quoi, même après toaster. Donc, évidemment, la compagnie s'appelle Toastéroïde.
C'est vrai?
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a d'intelligent, ce toaster? Eh bien, c'est simple, il est relié à une application mobile sur laquelle vous pouvez dessiner. Et donc, votre beau dessin ensuite est envoyé au toaster. Et ce dernier vous grille votre pain avec une illustration dessus, transformant votre tranche de pain mou blanc
en œuvre d'art.
Qu'est-ce que tu dessinerais, Philippe, à 6h30 du matin sur ta tranche de pain?
6h30 du matin, je sais pas, sur une tranche de pain, qu'est-ce que je pourrais faire? Un croissant, tiens.
Croissant sur une tranche de pain, voilà. Toi, Émilie, un petit soleil.
Je pense que j'écrirais mon nom.
Elle est en feu ce matin.
Non, mais j'adore signer ma griffe finalement, donc je la ferai sur ma tasse.
Sur le pain.
Très bien. Ben voilà, donc ça a une utilité. Et enfin, en première position, j'ai nommé la salière connectée. Donc cette petite merveille peut doser à la perfection vos quantités de sel de la pincée à la cuillère à soupe. Et elle a été confectionnée par une entreprise qui s'appelle Smolt, un savant jeu de mots entre salt et smart.
Ah oui.
Donc, cette salière répond au nom d'Alexa et est connectée à une application mobile. Mais pas de panique, si vous avez les mains pleines de farine, elle répond aussi aux demandes orales. Et puis, pour finir, cette salière...
Je vois qu'Émilie, je sais pas comment tu as écrit ta chronique. C'était quand même dans un moment un petit peu particulier, je pense.
Bon, et puis pour finir, cette salière, elle fait aussi speaker, parce que pourquoi pas. Donc, j'espère que ma chronique vous a ouvert les yeux sur les possibilités infinies d'emplois reliés aux objets connectés. Ça vous évitera de dire la prochaine fois...
J'ai cherché, j'ai pas trouvé...
Merci Émilie. On rappelle, vous pouvez consulter toute notre sélection d'offres d'emploi, recherche et innovation sur notre plateforme cscience.ca. Et si vous avez des offres à publier, eh bien tout simplement, vous nous contactez via notre plateforme et on se fera un plaisir de relayer. Merci encore Émilie. C'est l'heure de notre invité et cette semaine, Audrey, on reçoit Pascal Monette.
Oui, Pascal Monette, président de l'ADRIC RCTI, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation au Québec.
Pascal Monette, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir 40 ans?
Ça nous lance beaucoup de défis, puisque quand nous sommes nés il y a 40 ans, c'était déjà pour relever des défis. En fait, c'est né d'une double préoccupation qui est venue de deux ministres importants du gouvernement Lévesque à l'époque. C'était Camille Lorrain, le père de la loi 101, qui avait une préoccupation de voir la recherche industrielle, comme on disait dans le temps, se faire en français.
Ouais.
Et du ministre d'État au développement économique, monsieur Bernard Landry, qui est décédé récemment. Qui, évidemment, lui, souhaitait voir plus de recherche industrielle dans nos entreprises, notamment dans les PME, parce qu'il y avait un déficit et on sait que la recherche et l'innovation, on ne disait pas l'innovation à l'époque, mais la recherche est un vecteur important de développement de nos entreprises. Adrien l'a bien parlé tantôt, on va pouvoir revenir sur le sujet.
Exactement, exactement, Pascal. 40 années que l'ADRIC existe, on le rappelle. À l'époque, on écoutait ceci. Ah, ça nous replonge, hein. Effectivement. Ou encore, cela. Pas mal aussi, hein. Ou bien encore, ceci. Qui va arriver, peut-être, juste là, voilà. C'est pas mal. We are the champions, vous pourrez vous dire ça, évidemment, à l'ADRIC. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque-là, à l'ADRIC? Vous rappeliez justement le contexte de la création, à part les cheveux qui ont raccourci. C'est quoi l'élément le plus marquant de l'évolution de l'ADRIC jusqu'à aujourd'hui? En 40 ans, c'est énorme.
Je sais pas si les cheveux ont raccourci. Quand je regarde mon gars, j'ai l'impression que la mode revient.
Sans commentaire.
Écoutez, je pense que c'est un éternel recommencement de souhaiter, entre autres, une meilleure proximité entre les acteurs de la recherche et les entreprises. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Tout le monde cherche le modèle idéal parce que c'est deux mondes qui souvent ne se parlent pas. Évidemment, les gouvernements font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de modèles qui sont en train d'apparaître, comme des écosystèmes ou des grandes entreprises qui travaillent avec des acteurs de recherche vont aider des plus petites à faire leur place, notamment à trouver le premier acheteur, ce qui est très important. Évidemment, la commercialisation, l'innovation, on recherche encore la formule secrète, mais c'est pas si secret que ça. J'ai étudié dans les années 80 en gestion. J'ai fait mon cours de marketing, évidemment. Et la connaissance des marchés, la connaissance des clientèles, ça demeure à la base quelque chose de fondamental. Développer le meilleur produit technologique sans marché, ça ne veut pas dire grand-chose, ça demeure une belle invention.
Donc, mais si je comprends la logique quand même, Pascal, de la création de l'ADRIC il y a donc 40 ans, c'était d'une certaine manière pour que 40 années après, ça n'existe plus. Parce que finalement, vous étiez là pour impulser d'une certaine manière le fait que les PME, les grandes entreprises, puis le milieu de la recherche, puissent accélérer la commercialisation. Ça veut dire que 40 ans après, il y a encore un besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça a évolué dans le bon sens? Est-ce que 40 ans, c'est quand même énorme.
Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement pendant ces 40 dernières années que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler en politique commerciale, c'est que l'économie s'est mondialisée. Nos concurrents ne sont plus...
Le contexte a changé.
Le contexte mondial a changé. Nos concurrents ne sont plus dans le parc industriel de la ville voisine. Ils sont en Chine. Quand on revient à l'innovation, souvent, je vais dire, si vous avez une bonne idée, faites-le vite. Parce que cette idée-là a probablement déjà apparu ailleurs sur la planète. Donc, ce contexte de mondialisation, avec évidemment l'Internet, la propulsion des idées à vitesse grand V, fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut être davantage agile, plus rapide, et ça commande, ça demande au gouvernement, aux acteurs, de bouger plus rapidement. On peut parler de chiffres, on peut dire que le Québec, par exemple, dans l'industrie 4.0, dans tout ce qui est manufacturier, a pris beaucoup d'avance par rapport aux autres provinces. C'est bien, mais on ne se compare pas aux autres provinces, on se compare aux autres pays.
Au monde.
Et en ce sens-là, il y a encore du retard. Bon, il y a toujours l'idée d'avoir à moitié le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais oui, 40 ans après, pour revenir à votre question, Philippe, oui, il y a toujours une pertinence d'être là. L'ADRIC a toujours été, c'est toujours considéré comme un acteur neutre pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs universitaires, centres collégiaux de transfert de technologie, sociétés de valorisation, centres de recherche privé-public, petites grandes entreprises, puissent mieux travailler ensemble pour augmenter nos capacités concurrentielles.
Alors justement, Pascal Monette, parlons de recherche et développement. Le gouvernement fédéral rappelait hier dans le cadre de sa mise à jour économique là, l'importance d'accélérer l'investissement, l'innovation. Je pense que ça fait un peu écho à ce que vous dites là. On fait bien, mais on fait peut-être pas assez encore. En 2014, on s'en rappellera, on coupait les crédits d'impôt à la recherche et développement. Ça avait fait un petit peu bobo. Et on a vu les chiffres de la recherche et développement ensuite un peu être grippés. Est-ce que les manufacturiers au Québec se sont replacés là par rapport à ce qui ressemblait à une rupture? Est-ce qu'on garde le rythme de l'innovation?
Ben, d'une façon précise, il y a une étude de la BDC récemment qui parlait que l'augmentation dans le virage numérique prenait place dans nos entreprises manufacturières. C'est peut-être pas assez rapide, mais je pense qu'on commence à avoir des signes d'accélération. Est-ce que c'est un retard ou on est en train de rattraper? C'est difficile à évaluer. Mais effectivement, les coupures qui se font de façon abrupte sont très dangereuses. On est dans un système... Oui, il faut bouger rapidement, mais il y a des travaux de fond qui s'effectuent notamment dans le milieu universitaire où ça prend des années à aboutir. Nous, on croit que la recherche fondamentale fait partie du continuum qui mène jusqu'à au marché. Quand on parle de l'idée au marché, il y a un peu de ça là-dedans.
Anne-Marie Larose, qui était là il y a peu au plateau, nous parlait un exemple, 15 ans pour passer effectivement d'un projet de recherche à sa commercialisation. C'est une longue période, 15 ans.
Oui, mais ça, évidemment, ça dépend des secteurs. Dans le pharmaceutique, on s'entend que c'est très long. Dans les TI, les applications, ils ont des pipelines où ça sort aux 3 mois. J'exagère peut-être. Okay. Donc, il y a des mots importants, qui la prévisibilité et la stabilité. Et on a beaucoup plaidé auprès du gouvernement fédéral, qui a quand même beaucoup d'organismes subventionnaires de recherche. Et dans le rapport de Naylor, rendu public l'été passé, on a commencé à voir apparaître cette stratégie-là d'être plus stable pour nos organes, nos organismes de recherche. C'est fort important.
Alors, ce jeudi soir, c'est le gala annuel de l'ADRIC. Vous réunissez tout ce que le Québec compte d'acteurs de l'innovation. Il y a du monde, il y a de l'organisation. Tous ont plus ou moins leur agenda, leurs priorités. Vous, votre rôle, l'ADRIC, c'est d'animer cet écosystème, comme vous l'avez dit. C'est un écosystème très diversifié, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions. Comment on mobilise ce monde-là? En fait, comment on est capable de parler d'une seule voix à toute cette diversité d'organisations?
Bon, eu égard nos ressources, évidemment, on s'est concentré sur trois orientations. Vous l'avez dit, le gala. Dans le fond, c'est le moment festif de l'année qui permet de souligner les bons coups en innovation, en recherche, au cours de la dernière année. Et à chaque année, évidemment, on honore une personnalité qui a fait sa marque et qui a influencé positivement l'écosystème, la recherche, l'innovation. Donc, on a comme ce soir une dizaine de prix qui sont remis. Et c'est notre façon à nous d'encourager aussi les entreprises parce qu'il y a une valeur de reconnaissance. On se rend compte aussi que les entreprises font beaucoup rejaillir auprès de leurs employés. Donc, une force de mobilisation qui se crée à travers ça, ce qui est très important. Deuxième orientation, c'est que nous travaillons en termes de politique publique. Donc, étant un acteur neutre, on n'a pas le pot pour augmenter un budget X, Y, Z d'un acteur ou de l'autre. Nous, on s'assure d'une cohérence dans les politiques publiques de recherche et d'innovation. On a produit un mémoire il y a 2 ans, qui était un peu avant la stratégie québécoise de recherche et innovation lancée l'an dernier, où on parlait d'industrie 4.0, on parlait de la collaboration des acteurs de recherche et d'innovation, on parlait de la nécessaire culture scientifique qui amène à des carrières scientifiques et technologiques. L'industrie 4.0 nous amène là aussi. Et on parlait aussi encore et toujours de la commercialisation de l'innovation.
Donc si ça vous fait remonter, c'est les enjeux principaux, hein, on comprend. Vous faites remonter ça auprès des décideurs publics.
Un exemple très précis, commercialisation de l'innovation. On sait que les gouvernements peuvent jouer un rôle, par exemple, dans les grands appels d'offres publics où on peut parler de contenu local. Bon, on peut aider des plus petites entreprises qui n'ont pas trouvé encore un marché. Donc, ça permet d'avoir c'est Hydro-Québec ou le ministère de la Santé, c'est un saut. Et quand tu arrives aux États-Unis, ben oui, j'ai vendu une grande entreprise, donc mon produit a une valeur, une crédibilité. Et la troisième façon de travailler, c'est avec le RCTI, Réseau Conseil Technologie et Innovation, que nous avons intégré il y a 7 ans aujourd'hui. Qui est en fait un regroupement de 45 experts qui intervient auprès des entreprises à travers des programmes gouvernementaux, tout simplement pour augmenter les capacités d'innovation, régler des problématiques d'entreprise. Donc, on fait à peu près, bon an, mal an, 300 interventions auprès des entreprises, ce qui fait que c'est quand même assez important. Et terminer là-dessus, Philippe, c'est important, cette partie-là, c'est que ça vient nous donner une connaissance du terrain pour pouvoir intervenir après en termes de politique
un
publique.
Levier.
Oui, c'est sûr que nous, comme Audrey, on lit beaucoup, on regarde les études, les analyses, on cherche le meilleur modèle, on échange. Mais d'avoir une connaissance des terrains en direct, des entreprises, qu'est-ce qu'elles vivent, ça a une grande valeur.
Et bon, vous le disiez, et on le constate aussi, on l'observe, le milieu industriel, le milieu associatif alimente beaucoup le lead pour justement mobiliser les entreprises. On a des belles entreprises aussi au Québec. On a un lead en intelligence artificielle qui est assez central aujourd'hui dans ce que deviendra le secteur manufacturier. Mais malgré tous ces efforts, il y a aussi des accidents. On voit bien les relations commerciales s'abîme et voilà. Donc y a, quand on regarde l'ensemble de la soupe là, on a envie de savoir là comment va le manufacturier aujourd'hui, est-ce qu'il a le moral, parce que on n'entend plus beaucoup de bonnes nouvelles dans le fond.
Ben je pense que le manufacturier a toujours subi normalement. Monsieur Landry, s'il faisait la promotion du libre-échange, il savait qu'un petit pays, un petit État comme le Québec devait avoir accès avec le moins de contraintes possible aux autres marchés. C'est un éternel combat. M. Trump, on peut dire ce qu'on veut, mais à sa façon, représente le côté isolationniste des États-Unis qui existait en 80, dans les années 80, quand on a voulu fermer les frontières. Et c'est pour ça qu'il y a eu des échanges convenus à l'accord de libre-échange. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, le manufacturier a toujours eu à subir ses contre-coups des politiques commerciales. C'est à nous, comme écosystème, gouvernement, acteurs, à les aider. Et je pense, honnêtement, avec l'action d'Investissement Québec, l'initiative manufacturière auquel on participe d'ailleurs, en faisant des webinaires, Démystifier 4.0, il y a un effort de mobilisation qui est considérable. Et je pense qu'on s'en va dans le bon sens. Il ne faut pas arrêter en plein milieu de la course. Ça demande beaucoup de coordination. Mais disons
que
je suis plutôt...
Restez mobilisé, c'est ça que vous voulez dire, Pascal. Restez oui. mobilisé. On est fin 2018, c'est déjà l'heure des premiers bilans de l'année écoulée. C'est aussi le moment pour entrevoir l'année qui vient. Allez, sortons notre boule de cristal, Pascal. 2019, est-ce qu'on sait déjà les enjeux qui vont occuper l'agenda des entreprises et des institutions dans le milieu de l'innovation? Qu'est-ce qui est dans le viseur actuellement de l'ADRIC?
Bon, l'industrie 4.0, c'est vraiment le dossier de l'heure. Je viens de parler, on a travaillé beaucoup en amont, mobilisé, évangélisé, éduqué. Je pense que les entreprises ont commencent à comprendre que l'introduction du numérique n'est pas quelque chose de si compliqué, qu'il y a une valeur à ça, il y a un bénéfice à ça. C'est à travers les webinaires que nous faisons, c'est leur faire comprendre ça. Et là, l'étape, c'est de passer au projet. À l'introduction de petits projets. On l'enseigne en innovation ou en 4.0 pour se donner confiance, et de construire et de le faire surtout dans une perspective de stratégie d'affaires. C'est, comme je dis, je vais le dire en anglais, c'est technology intensive, mais c'est pas technology driven. Il y a eu beaucoup de mauvaises expériences d'entreprises qui ont acheté des ERP, qui ont acheté des robots, mais qui ne s'inscrivaient pas dans une stratégie d'affaires. Il faut savoir où on s'en va avant
c'est
d'avoir
bien avoir la technologie, mais il faut avoir la méthode.
Oui, exactement.
Et vous parliez d'investissement en nouveaux équipements, puis évidemment avec ce que sont devenues les technologies, on parle de plus en plus d'investissement en capital immatériel. Il faut avoir une stratégie commerciale, il faut savoir sur quel marché on agit. Puis il y a un autre maillon essentiel, c'est le capital humain. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Il faut des travailleurs qui soient extrêmement formés sur des technologies de plus en plus sophistiquées, avec des capacités d'analyse aussi élevées. Juste concrètement et rapidement, est-ce que les entreprises s'organisent suffisamment à cet égard?
Vous avez parfaitement raison, Audrey. À mon avis, c'est l'enjeu majeur. Tout ça va amener un changement organisationnel majeur. Et ne pas considérer l'humain à travers ça, c'est une erreur qui risque de coûter cher. Il n'y a pas d'autre moyen que d'impliquer les gens pour réussir. Bon, évidemment, il faut se faire accompagner. On voit que l'industrie 4.0 amène une mutation dans le type de travail. On voit, par exemple, que la partie TI, excusez l'expression, dans le back-office devient de plus en plus présent parce qu'on parle d'interconnectivité, on parle de mettre en réseau. Évidemment, on est beaucoup dans le monde des TI. Évidemment, ça peut laisser des travailleurs, des travailleuses sur la brèche. Donc, il faut travailler avec ces gens-là. Les entreprises qui réussissent ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts en termes de gestion de ressources humaines. C'est un changement fondamental. Donc, il faut s'en préoccuper. Le message que je fais aux manufacturiers, c'est de se préoccuper avant tout des humains.
Merci Pascal Monnette. Je rappelle, vous êtes PDG de l'ADRIC, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation au Québec, qui célèbre donc ce jeudi soir ses 40 ans d'existence. Merci Pascal d'être venu au plateau de Célèbre d'eau.
Merci Philippe.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Nafon Bois, de l'artiste Mélissa Lavaux. C'est le choix de qui autour de cette table, Mélissa Lavaux? C'est Eve. Voilà, Eve, notre coordinatrice, qui nous a choisi. Donc, Mélissa Lavaux, tout simplement. C'est notre recommandation de la semaine pour vos travaux de recherche en labo. Merci, Émilie A., qui est là-bas au fond, Émilie Aubry. Merci, Émilie L., Émilie Laurenceau. Merci, Audrey Azoulay. Et puis merci encore une fois Pascal Monnette d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la recherche Émilie Laurenceau et à la coordination plateau Eve Jasmin, Philippe Regnou au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine à tous.